Armand, chapitre 9. Quand j'entrais, Jeanne était assise dans le salon, comme une visiteuse, censée être entourée d'objets propres à occuper une heure de loisir. Cela ne faisait que de me déplaire quand elle s'asseyait ainsi, car c'était chez elle le signe d'une lassitude que je ne peux supporter autour de moi. Cette fois, de la voir inactive me causa une appréhension. L'air qui passait d'une pièce à l'autre, les lumières de la façade voisine que j'apercevais par les fenêtres, aggravèrent mon trouble. Les portes et les volets étaient ouverts. Que Jeanne ne les eût pas fermés, pour que le salon fût plus intime, pour que la chaleur ne s'en allât pas, elle, d'ordinaire si soucieuse de confort, m'étonna. Lorsque j'arrivais, elle avait coutume de m'embrasser, de sentir mon haleine, dont elle confondait les odeurs, pour me gronder si j'avais bu, de toucher mon visage sous les yeux, là où personne sauf elle pouvait le faire, de mettre négligemment ses mains dans les poches les plus ouvertes de mes vêtements, de glisser deux doigts dans mon gousset, comme si j'eusse été chargé de paquets, pour en tirer de la monnaie tant bien que mal, parce que les femmes ne savent pas mettre les doigts dans un gousset. Ce soir-là, elle ne bougea pas. Je n'osais m'approcher d'elle. Il était 8 heures. J'avais quitté Lucien à la fin de l'après-midi. Il m'apparut qu'il avait pu venir ici dans l'intervalle et tout raconter. Je perdis la tête. J'étais haletant au point de ne pouvoir respirer que par la bouche. Sur l'épaisseur de mes semelles, j'avais l'impression de me tenir en équilibre. Jeanne avait gardé ses gants près d'elle. Son chapeau, que d'habitude elle rangeait avant toute chose, se trouvait sur la table, au bord, parce qu'il avait roulé avant de s'arrêter. Elle portait une longue jaquette, ainsi que pour sortir. La fourrure du col dissimulait sa nuque et son menton. Elle l'avait fermée comme quand elle baissait la tête et souriait pour ressembler à une image. Sans dire un mot, je me rendis dans la salle à manger. Là, à l'heure où l'on ne prenait aucun repas, je me sentais à l'abri. La salamandre était éteinte, les poignées de porcelaine encore tièdes. Un sucrier, à cause de l'idée de dessert qu'il évoquait, me fit remarquer que la table n'était pas mise. Pour qu'aucun bruit ne traversât la cloison me séparant du salon, j'ouvris le battant du buffet qui ne criait pas. Aucune coupure fraîche n'avait été faite dans les restes. Jeanne n'avait pas dîné. Je passai dans la chambre à coucher avec la crainte que l'armoire à glace ne fût fermée à clé. La porte en était entr'ouverte. Un instant, je repris confiance, mais la peur ne tarda pas à m'envahir de nouveau. Les lettres n'étaient plus sur la cheminée. Jeanne les avait cachées. Elle savait. Elle ne voulait plus que je participasse à sa vie. Pour y trouver une consolation, elle les avait relues. Je m'assis, non par fatigue, mais dans l'espoir que, comme pour un mal physique, un changement de position me soulagerait. Il n'en fut rien. J'avais des battements de cœur. Je les sentais dans toute ma poitrine, à peine plus fort à gauche, montant, lorsque la respiration me manquait, jusque vers la gorge et la nuque. Une ampoule au mur éclairait le lit. Un jour, en mon absence, Jeanne l'avait entourée d'étoffes pâles. À mon retour, je m'étais attendri. Je me levai. Je me souvenais de nos premiers mots à cette clarté. Comme elle était froide à présent, sur le couvre-lit, sans les lettres. Avec obstination, je me mis à les chercher. Il me semblait que mon bonheur dépendit d'elle. Je soulevai les oreillers. Le matelas sous lequel Jeanne, sachant que je connaissais sa cachette, avait pu les glisser en pensant qu'à cause de cela, je n'eusse pas eu l'idée de regarder là. Puis, en tremblant, je m'appliquai à refaire le lit pour qu'elle ne s'aperçût de rien. Mais de quelque façon que je disposasse le couvre-pied, de nouveaux plis demeuraient. Les tiroirs étaient fermés, alors que, d'habitude, Jeanne en laissait deux ou trois ouverts, à cause de son désir de paraître distraite et un peu désordonnée. Les lettres se trouvaient dans l'un d'eux. Un profond bien-être m'inonda. Mon cœur continua de battre comme avant, mais sans m'oppresser. Je respirais. Lucien n'était pas venu. Il n'avait rien raconté. Il était incapable de commettre une action aussi basse. Je m'étais trompé sur lui, sur Jeanne. Le monde était meilleur que je ne le pensais. J'en arrivais à me croire persécuté, à voir les signes d'une machination en le moindre objet déplacé. Une peur maladive de toute chose affaiblissait mon jugement, convertissait un simple mouvement d'humeur de Lucien en un accès de colère, un peu de fatigue chez Jeanne en projet dirigé contre moi. Je fis du bruit. Comme un enfant, pour en éprouver l'élasticité, je m'assis sur le lit, bien que je l'eusse soigneusement refait, puis, confiant, je retournai au salon. À cause d'un jeu de glace, la pièce formait une courte galerie qu'éclairaient trois fois les clochettes du même lustre. Mais la cheminée dans la glace de laquelle le salon se reflétait gâtait l'illusion de grandeur. Jeanne était assise à la même place. Ses doigts avaient bougé. Parce qu'ils étaient plus bas, comme le soir l'extrémité des branches, elle me parut lasse. La peur vers laquelle j'inclinais recommença de m'envahir. Partout, je remarquais des détails inhabituels. Nulle part il n'y avait le signe d'une occupation quotidienne. Les chaises étaient trop éloignées les unes des autres pour qu'on les eût touchées. Je parcourus le salon comme si je cherchais un objet afin de donner une raison à mes allées et venues dans l'appartement. Enfin, je m'assis en face de Jeanne. Ne pas parler était comme un aveu. Pourtant, je n'osais prononcer un mot. Elle baissa les yeux. Un de ses doigts remua, puis reprit sa place entre les autres doigts. À sa respiration, à ses mains, à son visage, à ses vêtements même, j'essayais de deviner ce qu'elle méditait. Je n'y parvenais pas. Que tout son être fût présent devant moi, sans qu'un détail en trahît la pensée, m'irrita. Avec mollesse, comme si pour me punir d'un oubli je fusse frappé, je me traitais d'imbécile. Je déplorais mon manque d'intuition lorsqu'il m'advint de me demander ce que j'eusse fait, si cela avait été Jeanne qui m'eût trompé. Je me serais gardé de lui annoncer tout de suite que je savais. J'aurais, comme elle, attendu le plus longtemps possible. Cette constatation m'accabla. Je tentais de m'accrocher à la différence de nos caractères. Jeanne était beaucoup plus emportée que moi. Si elle avait su quelque chose, elle n'eût pu me le dissimuler. Mais cette supposition, au lieu de me ranimer, me laissa aussi abattu tant elle était fragile. Jeanne ne bougeait toujours pas. Je compris que cette immobilité, qui finissait par me sembler naturelle, était la marque d'une grande douleur. Quelque chose s'était passé en mon absence. J'étais perdu. J'aurais voulu revoir Lucien sur le champ, lui demander s'il était venu. Je rageais de ne pas lui avoir posé, avant de le quitter, une question qui m'eût rassuré jusqu'à présent. Je doutais de l'apaisement qui avait suivi sa colère. Il était rancunier. Il avait dit que cela ne se passerait pas comme cela. Je n'en pouvais plus. Autour de moi, tout était froid, lointain. Je me levais avec la pensée de me rendre dans notre chambre, de me coucher, de faire semblant de dormir pour ne rien apprendre ce soir. Je sortis sans bruit, faisant des gestes exagérés afin d'être silencieux. Dans l'antichambre, je tournais le commutateur. Soudain, alors que je me tenais droit à la faible lumière du couloir, hésitant encore à faire un autre pas, j'entendis la voix de Jeanne. « Armand, j'ai à te parler. » Jusqu'à présent, je n'avais redouté qu'une seule chose, qu'elle n'eût appris par Lucien que j'avais embrassé Marguerite. Maintenant, c'était d'un châtiment que j'avais peur. Pendant un instant, j'eus le sentiment qu'elle avait des droits sur moi, qu'elle pouvait se venger, que le monde lui donnerait raison. Je revins dans le salon, non sans avoir, par un souci d'être moi-même, fermé la lumière de l'antichambre. Debout, face à moi, complètement changée, Jeanne m'examina des pieds à la tête, n'osant être dédaigneuse, de peur que cela n'eût accentué la hauteur de sa taille. Je sentis que j'étais un étranger pour elle, que plus rien ici ne m'appartenait. Divers objets qui sont à moi passèrent devant mes yeux. Il me sembla que l'on me poussait dehors, que je n'avais pas le temps de les prendre. Bien qu'en marchant, je m'approchasse d'elle, je la voyais toujours de la même grandeur, loin de moi, le dos à la fenêtre. J'attendais qu'elle expliquât son attitude. Elle me regardait dans les yeux. Elle entr'ouvrit la bouche avant de proférer un mot pour que l'effort de remuer ses lèvres ne s'ajoutât pas à celui de parler. « C'est vrai, ce que m'a dit Lucien ?» Je ne répondis pas. Peut-être faisait-elle allusion à quelque chose d'autre. « Réponds-moi. » J'osais fixer mon regard dans ses prunelles, de l'une à l'autre, sans pouvoir l'immobiliser. Une table d'acajou nous séparait. Des pensées sans suite traversèrent mon esprit. Je vis l'image de Jeanne reflétée sur la table, plus nette que la mienne, dans un rectangle sans poussière où s'était trouvé un livre. Je vis la trappe de la cheminée à laquelle manquait un volant, le feutre de la table de jeu, décollé à l'endroit où elle se plie, les pédales du piano, la vis du tabouret, les butoirs qui protègent les boiseries des portes, le tapis sous lequel le parquet n'était pas ciré. Jeanne continua de parler, et je ne vis plus qu'elle que son visage dans ses plus petits détails. La minceur des lèvres serrées, la fixité du regard, lui donnaient une expression que je ne lui connaissais pas, aussi nouvelle pour moi que si, pour la première fois, nous nous fussions trouvés ensemble devant un mort. Dans le cerne de l'un de ses yeux, il y avait une tache qui rougissait après les repas. J'avais la même tache à la base du nez. Elles étaient toutes les deux sans doute causées par la rupture sous la peau d'un vaisseau sanguin. C'était un des signes communs qui avait fait que nous nous étions plus. À force de tenir sa tête dans ses mains, elle avait dégagé ses oreilles des cheveux qui les masquaient. Plus foncée, elle semblait bien portante, à côté de la pâleur du visage. Elle fit une grimace. Sa lèvre inférieure cacha l'autre. Ses cils, comme si elle avait pleuré, étaient clairsemés. La chair était à vif au coin de ses yeux. Une ride de la quarantaine, partie des joues, passa sous son menton. « Armand, ce que tu as fait n'est pas bien. J'avais confiance en toi. Je pensais que tu m'aimais un peu. Ce n'est pas bien. Tu ne sais pas comme j'ai souffert depuis que j'ai tout appris. » Elle parlait en fixant son regard dans mes yeux, exagérant sa fixité pour que je comprisse qu'elle voulait lire en moi. Ainsi qu'en face d'un spirit, je pensais à une idiotie impossible à deviner. Oh, « Je sais à quoi tu penses. Tu te dis, oh, qu'elle est ennuyeuse, cette femme. Je le devine dans tes yeux. Eh bien, cela ne m'empêchera pas de te parler comme tu le mérites. Entends-tu, Armand ?» Elle s'interrompit pour attendre une réponse. Je n'osais entr'ouvrir les lèvres, ni respirer bruyamment, ni même faire un geste, de peur que, pensant que j'allais parler, un silence ne lui causa une trop grande désillusion. J'étais pâle. Je l'écoutais en m'imposant de la regarder, en m'imposant surtout de ne pas baisser les yeux. Mais mes paupières ne tardent pas à me piquer. C'était toujours moi qui le premier détournais la tête, sans quoi j'eusse cligné les yeux et elle eût cru que je me moquais d'elle. L'horloge ne sonna heureusement que la demie. Un bruit trop long nous eût obligés à l'écouter ensemble. Malgré moi, je regardais la pendule. Une heure avait passé sans que je m'en fusse aperçu. On eût dit que les aiguilles avaient sauté l'espace que cette heure occupait sur le cadran. Soudain, Jeanne se dirigea vers la chambre à coucher sans se retourner, avec la précipitation d'une femme qui va pleurer. Je restais seul dans le salon, où le lustre, les chaises, étaient pour plusieurs. Je m'assis dans le fauteuil de Jeanne, parce que derrière lui, il n'y avait aucun meuble, aucun mur, parce que j'aime à pouvoir reculer lorsque je croise les jambes. Que personne ne me comprît me plongeait dans une grande tristesse. Je n'avais rien fait de mal. Ce n'était pas tromper une femme que d'embrasser une pauvre enfant seule au monde. Pourtant, je ne me sentais pas la force de convaincre Jeanne. Il m'a paru que tout ce qui me disculperait ne changerait rien à son opinion. À force d'avoir été soupçonné, méprisé, je ne croyais plus à la possibilité de me défendre par des mots. Les objections se heurtaient dans mon esprit, aussi logiques, aussi profondes que les excuses à mon acte. Seule, l'occasion immédiate de faire une grande chose pouvait me sauver. Je voulus alors me replier sur moi-même, découvrir l'énergie de reprendre goût à la vie. Jusqu'à présent, chaque fois que j'avais été malheureux, je trouvais dans l'injustice un réconfort. Le temps m'apparaissait devoir diviser en parts égales le bien et le mal. Mais j'avais trop usé du sentiment d'être une victime. Il s'était émoussé. J'eus beau exagérer l'injustice dont je souffrais, je demeurais abattu, sans que le moindre espoir né de la douleur vînt me ranimer. L'humilité n'était plus féconde. Les hommes avaient raison contre moi. Je n'étais pas digne d'être aimé ni secouru. Pour la première fois de ma vie, j'eus conscience qu'aucun être sur terre ne daignerait avoir pitié de moi. Je fermai les yeux avec l'espoir que dans l'obscurité je changerais, que ma détresse n'était que passagère. Mais j'avais les yeux ouverts derrière les paupières. La lumière jaune qui les traversait, très faible, me rappelait que le lustre était encore allumé. À cause de ce même désir qui me fait mordre les biscuits entiers de manière qu'il me révèle le demi-cercle de mes dents, je fermai les mains avec force pour que mes ongles laissassent une empreinte sur ma chair. J'ouvris les yeux. Les lumières du salon avaient les mêmes rayons, de la même longueur. Sur les meubles, les mêmes reflets n'avaient pas bougé. J'eus l'impression que la lumière était aussi indépendante de moi que celle du jour, que le commutateur ne se trouvait pas dans la chambre ni dans la maison, que si j'eusse voulu l'éteindre, je n'aurais pu le faire. Les portes étaient fermées. J'entendais, dans la cheminée plus proche de sa chambre que les murs, Jeanne qui se déshabillait. Les bruits, eux aussi, étaient les mêmes, comme si rien n'était arrivé. Puis je l'entendis se coucher. Je ne savais si elle avait éteint. Quoique cela n'eût en soi aucune importance, je me levai, m'approchai de la porte de sa chambre, de manière que mon ombre la couvrit, afin que les bords de l'embrasure, s'ils étaient lumineux, m'apparussent plus nettement. Ils étaient sombres. Elle avait éteint. Alors je sentis, plus qu'au moment où elle m'avait parlé, combien maintenant nous étions éloignés l'un de l'autre. Malgré ce que j'avais fait, la lumière la gênait pour dormir. Déjà, elle avait pris son parti de rester seule, avec des habitudes pour deux. Je me rassis. Ce ne fut que longtemps après, quand je supposais qu'elle s'était endormie, que j'entrai dans la chambre à coucher.